Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous parlons cette année de Saint Paul, et plus particulièrement de son épître aux Romains. Lors d'une première émission, nous avons brièvement tracé un portrait de la personne extraordinaire qu'était Saint Paul, et vu un tableau d'ensemble de ses lettres, du moins celles qui sont considérées comme authentiquement de sa main. Mais avant d'aborder la lecture de l'épître aux Romains proprement dite, celle qui est en fait la dernière qui fut écrite par saint Paul, nous voudrions commencer notre émission aujourd'hui en regardant l'épître aux Galates, parce qu'elle est comme un brouillon de la lettre aux Romains. En effet, elle développe le même thème central et montre bien le problème auquel saint Paul doit faire face au travers de ce qu'on appelle la crise galate, une crise qui révèle les difficultés dans les premières communautés chrétiennes du rapport à l'héritage du judaïsme. Car il y a parmi les premiers chrétiens des chrétiens d'origine juive qui veulent rester fidèles au rite juif et demande qu'il soit imposé également aux chrétiens d'origine païenne.
Oui, en effet, c'est une période de transition, hein, où le christianisme naissant est encore considéré un peu comme une subdivision du judaïsme. C'est pourquoi certains estiment que, par exemple, la circoncision, l'observance des fêtes du calendrier juif, sont des éléments essentiels pour rester fidèles à l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et Moïse. Alors, c'est pour eux une condition nécessaire au salut. Or, cette position n'est pas du tout celle de saint Paul, qui était venu prêcher aux Galates quelques années auparavant, quelque chose de complètement différent. C'est vrai que saint Paul, en découvrant ce qui se passe, pique vraiment une sainte colère. Et donc écrit aux Galates une lettre vraiment cinglante, là, pleine de fougue, digne des anciens prophètes, où il laisse jaillir... je dirais sans ménagement aucune diplomatie, ce qu'il pense de cet inutile retour en arrière. Dans l'épître aux Galates, on découvre la pensée de Paul, dans toute sa spontanéité, vraiment à l'état brut, là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il éprouvera ensuite le besoin de revenir sur ce sujet avec un petit peu plus de nuance, de modération dans sa lettre aux Romains. Car à Rome, on rencontrait exactement les mêmes problèmes.
Oui, lisons donc quelques extraits de la lettre aux Galates pour nous imprégner du mordant du style de saint Paul. D'abord, chapitre 1, verset 6. « J'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un évangile différent. » Ou Galates, chapitre 3, verset 3. Êtes-vous stupide à ce point, vous qui avez commencé par l'esprit? Est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Avoir fait tant d'expériences en vain?
Dur.
Ensuite, chapitre 4, verset 9. Maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de lui, comment pouvez-vous retourner encore à des faibles et misérables pratiques spirituelles? Dans la volonté de vous asservir à nouveau? Voilà, et toujours sur le même ton, chapitre 5, verset 1, « C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. » Et enfin, sans doute la plus belle phrase de chapitre 6, verset 14, « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle création. Sur ceux qui se conduisent selon cette règle, paix et miséricorde. »
Oui, c'est vraiment pas de la langue de bois que nous avons parfois...
Ça nous change.
Oui, voilà. On a parfois tendance, pour parler de la foi, à être un petit peu mielleux. Bon. Alors, Paul n'hésite pas là, à secouer, même à choquer ses destinataires. mais c'est pour une bonne cause, hein, car il s'agit de surmonter un des grands problèmes des premières communautés chrétiennes. Comment situer la foi au Christ par rapport à la loi de Moïse? Faut-il que les païens adoptent les comportements du judaïsme pour devenir chrétiens? C'est dans cette épître aux Galates, hein, que Paul se prononce de façon peut-être un peu abrupte, hein, mais très clairement, hein, pour le dépassement de la loi et la vie selon la liberté, hein, que la croix du Christ a permis d'obtenir. Il lui faut beaucoup de courage, hein, pour outrepasser ainsi les habitudes de sa propre religion. Il raconte même, hein, en Galates chapitre 2, verset 11, comment il a eu l'audace de s'opposer à l'apôtre Pierre lors d'une rencontre à Antioche, pour faire admettre, bien sûr, son point de vue. Et il faut encore ajouter, alors là, ce beau verset du chapitre 2, hein, toujours dans Galates, bien sûr, verset 21. « Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu, car si par la loi on atteint la justice, c'est donc pour rien que le Christ est mort ?»
Oui, voilà. Mais en fait, les choses, pour aussi claires qu'elles ont l'air d'être là, ne sont pas aussi simples. Non. Et saint Paul lui-même s'en rend compte, et déjà, dans l'Épître aux Galates elle-même, chapitre 5, verset 14, il dit « La loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Or, quand il dit cela, saint Paul cite évidemment un passage de la loi de Moïse, parce qu'il s'agit d'un verset du Lévitique tiré du chapitre 19, c'est le verset 18. Donc la question du rapport à la loi juive ne se réglera pas en quelques phrases, même bien vigoureuses, et Paul en prend conscience. C'est pourquoi sa lettre aux Romains va reprendre tout le contenu de la lettre aux Galates, mais avec plus de calme et de tempérance, il va approfondir et nuancer tout ça. Parce qu'après tout, Jésus lui-même l'a dit à la Samaritaine. Si on prend l'évangile de Jean, oui, chapitre 4, là, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». Et nous trouvons même en l'évangile de Matthieu, chapitre 5, un autre enseignement de Jésus, les versets 10 et 18 que je vous lis. « N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes, » dit Jésus. « Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. »
Et c'est tout le chemin de la liberté chrétienne dont il est question ici. Et il n'est pas si simple à parcourir, puisqu'il demande que l'on vive selon l'amour pour accomplir vraiment le projet de Dieu. Et si parler de l'amour est aisé, hein, le mettre en pratique au quotidien, c'est moins évident. Et c'est pour cela que nous avons choisi de parler de l'Épître aux Romains à présent, mais en suivant les propositions spécifiques du père Christophe Rimbaud, hein, dont vous pourrez par ailleurs lire son livre, hein, récemment paru, le titre est « L'avènement de l'amour », un livre qui présente l'Épître aux Romains comme un enseignement de saint Paul pour une mise en pratique authentique de l'amour. Mais avant d'entrer dans l'Épître elle-même, il serait intéressant de situer plus précisément le contexte historique, hein, et culturel dans lequel elle fut écrite. Nous avons vu que Paul, à ce moment-là, résidait à Corinthe, hein, vers les années 56-57 de notre ère. Il y prépare un voyage à Jérusalem pour y porter le fruit d'une collecte qu'il a faite. Mais de là, il a l'intention de partir pour l'Espagne. Voilà, et comme Rome est sur son chemin, il prévoit de s'y arrêter. Thank you.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons de l'apôtre Paul, qui est en train de se préparer à un voyage vers l'Espagne, avec d'abord un arrêt à Rome. Et c'est certainement pour préparer ce séjour à Rome que Paul écrit, je cite, « aux bien-aimés de Dieu qui sont à Rome », comme le dit le début de sa lettre, pour qu'ils puissent l'accueillir en toute connaissance de cause et le soutenir dans ses projets. Il faut se souvenir que ce n'est pas saint Paul qui a fondé cette communauté de Rome. Il prend donc plus de précautions qu'à son habitude. Mais il montre quand même qu'il est parfaitement informé des problèmes qui se posent dans cette communauté. En fait, ça nous montre qu'on voyageait beaucoup autour de la Méditerranée et que les nouvelles circulaient assez facilement. Paul écrit donc à un groupe de chrétiens, peut-être pas complètement organisé en église, mais on est sûr que la communauté existe déjà depuis au moins 6 ou 7 ans. Elle a déjà connu des difficultés avec l'empereur romain Claude, qui confondait totalement juifs et chrétiens et les avait associés dans des persécutions. Mais il est aussi certain que le rapport avec le judaïsme n'est pas beaucoup plus clair à l'intérieur de la communauté chrétienne de Rome.
Oui, il semble bien pourtant que c'était des juifs convertis au Christ qui fut à l'origine de cette communauté, dont Priscille et Aquila, les fabricants de tentes avec lesquels Paul travailla. Et c'est petit à petit que des païens les rejoindront pour devenir finalement beaucoup plus nombreux. Mais les points de vue sont là très divers. Certains judéo-chrétiens veulent continuer le judaïsme dans le christianisme et d'autres souhaitent au contraire, comme Paul, ne conserver qu'un minimum de coutumes juives. Certains veulent rester fidèles à la Torah, d'autres jugent que le christianisme est venu l'abolir. Tout cela amène bien évidemment des tensions dans la communauté. D'autant plus que le contexte social ne s'améliore pas. Depuis l'an 54, c'est Néron qui est empereur à Rome, lui dont on sait qu'il n'avait pas toute sa tête et qu'il régnait plus par la violence, l'arbitraire et beaucoup de caprices très cruels, créant autour de lui la corruption, la décadence. Mais sa femme, elle, Poppée, est favorable aux Juifs. Sans doute faisait-elle partie des prosélytes. L'historien Flavius Joseph la décrit comme une femme très pieuse, profondément religieuse. Et c'est grâce à elle que les Juifs bénéficièrent de privilèges à Rome.
Oui, alors, pour les premiers chrétiens, une assimilation aux Juifs, c'était plutôt une assurance de protection de la part de l'empereur. Ça représente un certain attrait. Mais les chrétiens d'origine païenne sont devenus majoritaires et n'envisagent pas forcément une telle assimilation. C'est là que saint Paul entre en jeu, d'autant plus que plusieurs années avant, les apôtres avaient décidé de réserver à Paul un ministère particulier pour les païens. On voit ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 27-29. On voit par exemple qu'on leur dit de ne pas imposer la circoncision aux païens convertis et de ne leur demander que, je cite, « de s'abstenir des sacrifices païens, de la consommation du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité ». Donc il semblait clair, en tout cas dans les principes, qu'il n'était pas nécessaire d'appartenir au judaïsme pour devenir chrétien. La lettre de saint Paul aux Romains commence donc par traiter ce problème-là. Je vous propose que nous en commencions la lecture à présent. D'abord, Paul se présente, le premier verset. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. »
Et cette façon de se présenter donne d'emblée une certaine autorité à ses paroles. Et Paul reprend au verset 5 « Grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus a appelé. » On a l'impression que Paul passe carrément sous silence les chrétiens d'origine juive. Il s'adresse, nous dit le texte, aux chrétiens qui font partie des nations païennes. Il affirme ainsi sa vocation personnelle, qui est d'aller vers les païens, Et c'est une position décisive, hein, puisqu'elle coupe de fait la communauté de Rome de toute appartenance à la religion juive. Alors, avec Paul, le christianisme trouve vraiment son autonomie et l'évangile devient une proclamation originale et non plus uniquement une option hein, du judaïsme. C'est d'ailleurs sous la plume de Paul hein, que le mot évangile apparaît pour la première fois. On peut même dire que Paul a inventé hein, le mot évangile dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. En fait, il signifie bonne nouvelle, mais ce terme était utilisé à l'époque dans le vocabulaire militaire pour signifier une bonne nouvelle, hein, pour annoncer une victoire. Paul détourne donc le mot pour en faire une annonce de victoire du Christ, victoire de la vie.
Oui, et il faut rappeler qu'au moment où Paul rédige sa lettre aux Romains, aucun des quatre évangiles n'a encore été écrit. Non. Et que le choix de ce mot qui évoque donc une victoire militaire correspond bien en fait à une situation réelle de combat des chrétiens. D'une part parce que on les accuse d'apostasie du côté des juifs, ce sont des renégats, et d'autre part, du côté des romains, on les accuse de superstitions néfastes et dangereuses. Être chrétien à ce moment-là demande énormément de courage. Et la bonne nouvelle, donc, selon Paul, était en même temps un encouragement à tenir bon dans l'adversité et une assurance que la victoire de Dieu est au bout de ce combat spirituel. Saint Paul utilisera le mot 10 fois tout au long de cet épître, et même plusieurs fois en disant « mon évangile ». Il se l'approprie tant il se sent responsable de cette annonce pour la protéger des déformations, des mauvaises interprétations ou des mensonges carrément. Cela doit nous rappeler à quel point Paul était courageux, car il avançait parfois seul contre tous, ce qui montrait aussi à tous que la force de l'Esprit-Saint était avec lui, en lui, comme une réalité quasi palpable.
Oui, c'est un guerrier.
Oui, quelque part.
Oui. Ce serait intéressant même aujourd'hui de souligner cet aspect combatif hein, du mot « évangile ». Pour aider les chrétiens à tenir bon dans des situations parfois difficiles. Malheureusement, actuellement, les persécutions des chrétiens d'Orient qui ressemblent un peu à ce que vivaient les premiers chrétiens. Dans Bonne Nouvelle, il faut aussi reconnaître le sens de vérité hein, qui demande à être défendu, et, là, évidemment pas par les armes, mais par l'intelligence et la réflexion. L'adversité d'un milieu extérieur hostile doit obliger les chrétiens d'une communauté à approfondir leurs motifs de résistance. On ne peut plus se contenter d'une vague religiosité superficielle quand on est durement combattu. C'est pourquoi saint Paul dit au verset 11-12, on est toujours dans le chapitre 1, « J'ai en effet un très vif désir de vous voir pour vous communiquer l'un ou l'autre don de l'Esprit afin que vous en soyez fortifiés. » Et un peu plus loin, « afin que nous soyons réconfortés ensemble chez vous par la foi que nous avons en commun. »
Écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous lisons ensemble l'épître de saint Paul aux Romains. Il vient, donc nous étions au chapitre 1, versets 11 et 12, de dire son désir d'aller à Rome pour fortifier la communauté. Il ajoute au verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. » Cette expression « puissance de Dieu pour le salut » donne une force incroyable à son annonce de la bonne nouvelle. Évangéliser, ce n'est pas simplement raconter une histoire. C'est transmettre une énergie transformante qui est donnée par Dieu. Le mot grec originel, c'est « dynamis », qui peut se traduire par « puissance » ou « pouvoir », »,« force », »,« énergie », ça dépend du contexte, mais le mot est aussi utilisé dans le Nouveau Testament pour dire « miracle », donc pour montrer une intervention divine dans notre monde. L'Évangile, c'est la puissance de salut, mais pour celui qui est devenu croyant, qu'il soit juif ou païen, peu importe. Et c'est là qu'est la difficulté ou le mystère. Dieu se donne à celui qui peut le recevoir, à celui qui croit, qui fait confiance, c'est-à-dire qui a la foi. Le texte continue au verset 17, toujours chapitre 1. « Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. Comme il est écrit, celui qui est juste vivra par la foi. »
Oui, là, saint Paul cite un passage du petit prophète d'Israël, le prophète Habacuc, dont il n'a absolument pas, donc, quelque part, il n'a pas renoncé aux écritures des traditions juives, puisqu'il s'en sert dans la présentation de ce qui est le grand thème de sa lettre. C'est d'ailleurs un argument qu'il avait déjà employé dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, verset 11. Je vais vous le lire. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. L'Épître aux Romains, elle, précise que si la justification vient par de la foi, elle conduit aussi à la foi. La foi est nécessaire pour accueillir l'Évangile et en recevoir le salut, mais elle est aussi suffisante, c'est un peu des expressions mathématiques, car il n'y a pas d'autre horizon pour le croyant que de rester croyant, pour le fidèle que de rester fidèle. Cette phrase est tellement forte qu'elle fera partie des thèses mises en avant par Luther au XVIe siècle, pour se séparer de l'Église catholique. La foi seule est utile pour obtenir la grâce du salut. Luther refutait ainsi toute médiation d'un clergé et toute nécessité de devoir mériter le salut par des œuvres, par des bonnes actions comme condition préalable à la grâce. Enfin, c'était un peu perverti à l'époque.
Ah oui, il y avait beaucoup de perversion. L'Épître aux Romains a connu d'ailleurs diverses interprétations au fil des âges. Et donc, effectivement, elle a été utilisée pour fonder l'Église protestante. Pour anecdote, quand la traduction œcuménique de la Bible a été entreprise vers 1965, les responsables des différentes confessions chrétiennes ont voulu commencer la traduction commune par la traduction de la lettre aux Romains, en abordant donc de front les principales difficultés de la séparation. Et dans l'introduction de la Bible, traduction œcuménique, c'est celle qu'on appelle la Tobe, il est dit ceci, « Le texte de nos divisions devenait ainsi le texte de notre rencontre. » Voilà, c'était une parenthèse, mais qui nous oblige à prendre la mesure de l'importance théologique de la moindre petite phrase de cette lettre aux Romains. Toute la première partie des chapitres 1 à 8 est en fait un exposé de doctrine théologique dont se nourrit toujours la tradition chrétienne aujourd'hui. C'est le fruit de l'expérience de saint Paul et de sa réflexion qui s'appuie aussi, ne l'oublions pas, sur une immense connaissance de la tradition d'Israël et probablement il connaissait par cœur tout l'Ancien Testament. La suite donc, du chapitre 1 de l'Épître aux Romains va commencer un long développement d'une pièce à peu près jusqu'à la fin du chapitre 4 pour montrer que nul n'est juste devant Dieu et que seule la foi au Christ peut conduire au salut et à la justification.
Alors, lisons quelques versets de ce premier chapitre. Alors, d'abord le verset 18. Or, la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre toute impiété et contre toute injustice des hommes, qui par leur injustice font obstacle à la vérité. Ce verset nous rappelle que le salut est tout simplement une nécessité vitale pour l'humanité et pas du tout une possibilité décorative. Dieu n'est pas facultatif, il est la source de toute vie et l'ignorer conduit à des aberrations. Alors, plus loin, versets 21-22, ils, alors sous-entendu les hommes, se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles. Puis, donc, la fin du chapitre 1 explique, au verset 24, pourquoi, je vous cite, « À cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté. » Et un petit peu plus loin, « À des passions déshonorantes », nous dit le verset 26, avec toute une énumération de mauvais comportements que Paul considère comme conséquence de la colère de Dieu. Alors, dans cette longue liste, nous retrouvons l'homosexualité, mais aussi, je vous cite le verset 29, une partie, « Toutes sortes d'injustices, de perversités, de soif de posséder, de méchanceté, ne respirant aucune jalousie, meurtre, rivalité, ruse, dépravation, etc. » Je vous invite à lire la suite.
Oh, je vais la lire parce que la litanie vaut la peine d'être lue, elle est encore longue et réaliste et valable pour aujourd'hui, à mon sens. Les versets 30-31, je me vois dedans. « Ils sont médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, révoltés contre leurs parents. Ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. » Voilà, mais enfin, nous ne voulons pas achever l'émission sur cette effrayante description en nous donnant bonne conscience. Il nous faut tout de suite ajouter le premier verset du chapitre 2 qui dit « De même toi, quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. » Voilà, c'est dur, hein, car nous dit saint Paul, nous sommes tous concernés, tous compromis avec le mal, et personne n'a le droit de venir en donneur de leçons pour critiquer les autres. Et c'est sur ce sévère constat que nous terminons le début de l'épître de Paul aux Romains, dont nous reprendrons la lecture la prochaine fois. Au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous, à bientôt.
Au revoir Anne-Marie, au revoir Simon.